L'épître de Jacques continue à nous bouleverser, à avoir de vives discussions dans nos petits groupes. Eh bien, on va continuer. Voilà. Vous savez, maintenant, la plupart du temps, on a cette expression que généralement on utilise et qui commence par dis-moi, qui finit pardon, par dis-moi qui tu es. On l'utilise généralement pour commencer à débattre d'un thème. On l'utilise même pour des titres de livres. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est-ce que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Montre-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es. Alors effectivement, on peut trouver une phrase comme ça là ce matin. Hein, et dans des débats. Dis-moi qui tu adores et je te dirai qui tu es. Ça, c'est un sujet de débat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette formule que l'on va utiliser. Ce matin, je vais vous proposer une autre expression. Montre-moi ta sagesse et je te dirai d'où elle vient. Et le « je » que j'utilise, ce n'est pas « je »,« moi » ou « oui ». C'est « je » Dieu, mais aussi le monde, l'humanité. Montre-moi ta sagesse et je te dirai d'où elle vient. Et c'est Jacques, le frère de Jésus, l'auteur de l'épître de Jacques, qui dans le passage du jour, Jacques 3, versets 13 à 18, qui sous l'inspiration de Dieu, parce que toute l'inspiration de Dieu, va nous donner des réponses. Alors je vous avoue que quand on dit « montre-moi ta sagesse et je te dirai d'où elle vient », il y a un mot qui frappe, sagesse. On a quelquefois tendance à savoir déjà c'est quoi la sagesse. La sagesse, je sais déjà c'est quoi. Pourtant, lorsque l'on cherche la définition, lorsqu'on cherche des éléments, on voit qu'il y a une multitude de définitions sous la sagesse. La connaissance du vrai, du bien. Être calme, tranquille. On dit l'enfant est sage. Eh bien, il a tout conseil, tout sage. Calme, tranquille, il ne fait pas de bêtises. La sagesse, la connaissance du savoir, du vrai savoir. On parle même de sagesse orientale, sagesse occidentale. Ça, je ne connaissais pas. Donc, bien des choses sous la sagesse. Et je pense que si je donnais à chacun d'entre vous une petite feuille et que vous vous disiez, allez, en quelques secondes, décrivez-moi pour vous ce qu'est la sagesse, je pense qu'on aurait une variété de réponses et qui sans doute se compléteraient. En gros, tout cela pour vous dire que l'être humain a toujours été fasciné par la sagesse. Comment être sage? Comment le devenir? Et vous serez surpris de savoir ce que l'homme est prêt à faire pour acquérir la sagesse. Et pourtant, on va chercher ailleurs. Et Dieu nous a laissé une bibliothèque, vous rendez compte, une bibliothèque de 66 livres en un. Il n'y a que 8 qui peuvent faire ça. On n'a pas besoin d'aller à la bibliothèque chercher, comme l'avion aller à la Bibliothèque nationale de France. Cette bibliothèque de 66 livres, la Bible est accessible à tous. Et elle est comment? Gratuite. La parole de Dieu est gratuite. Alors effectivement, si peut-être ce matin tu nous visites et que tu n'as pas encore de Bible et que tu veux l'avoir et on t'invite à l'avoir, l'Église de lui-même est prête à te l'offrir, donc on fait le culte. J'espère, alors je m'avance, j'espère qu'il en reste. Et on sera ravis de t'offrir une Bible. Donc, la parole de Dieu est là. Elle est là pour nous donner des réponses à nos questions. Vous saviez que le mot sage ou sagesse est employé au moins 390 fois dans la Bible, Nouveau comme Ancien Testament. Donc tout ça pour dire que si on a des questions sur la sagesse, en lien avec la sagesse, allons piocher, allons étudier la parole de Dieu. Et ce matin, ce qui va nous intéresser particulièrement dans le passage que nous allons voir, qui va donner des réponses à deux questions. Comment montres-tu ta sagesse? Comment elle se manifeste en fait? Et est-ce que cette sagesse que tu montres, est-ce qu'elle vient de Dieu ou pas? Et c'est à ces deux questions que Jacques va nous inviter à répondre. Alors prenons ensemble Jacques 3, verset 13 à 17. C'est là que je vais me mettre. C'est bon, tout le monde là? On peut commencer la lecture? Oui, merci. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers. Et ne manquez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bon fruit. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Amen. Jacques commence ce passage par une question. Avez-vous remarqué cette question? Lequel parmi vous est sage et intelligent? Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à cette époque aux enseignants de la loi, à tous ceux qui avaient la connaissance, les scribes, les rabbins, les pharisiens, etc. Peut-être qu'il les a rencontrés. Peut-être qu'on lui a rapporté des faits. Mais Jacques a été interpellé par ce qu'il a vu. Il a peut-être vu des enseignants qui utilisaient les connaissances de la mauvaise manière qu'ils soient. Peut-être pour se faire voir, ou juger, etc. Pour se montrer plus haut que l'autre. Et c'est comme si Jacques va dire, bon, allez, maintenant là, ça suffit. C'est quand même la connaissance de Dieu. Donc, on va mettre des points sous les i et on va rétablir l'ordre. Mais à tous ceux qui ont la connaissance de Dieu, à nous, ses enfants, n'a-t-on pas aussi pour mission d'enseigner, pour mission de propager sa parole, d'évangéliser? Oui. Donc, cette parole, cette question, lequel parmi vous est sage et intelligent, elle s'adresse aussi à nous. La parole de Dieu est toujours d'actualité. À aucun moment dans les versets, il y a marqué, c'était il y a 2000 ans, c'était il y a 3000 ans. Non, toujours d'actualité et vérité. Mais revenons à cette question. Déjà, on voit que Jacques a mis deux mots ensemble. Sage et intelligence. L'intelligence ne va pas sans la sagesse. Alors oui, des hommes le font. Des hommes sont intelligents. Des hommes ont des connaissances. Là, je parle de la connaissance, pas seulement la connaissance de Dieu, mais la connaissance des choses. Je prends un exemple. Dernièrement, j'ai vu un reportage où des hommes arrivaient à utiliser leur ordinateur, à faire des manipulations, des algorithmes, des programmes, pour arriver à pirater une maison et ouvrir les portes, les fenêtres, les plaques, etc., etc. Même à ouvrir la webcam de nos ordinateurs. C'est pour ça que maintenant, quelquefois, on met des petits caches, parce qu'on ne sait jamais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ils sont intelligents, hein. Mais on dit de la sagesse pour l'utiliser correctement. C'est ça. Et c'est là où Jacques va nous interpeller. En fait, on a l'impression, c'est comme si la scène était devant nous, que les enseignants sont là. Tous ceux qui connaissent la loi, ils sont là. Jacques leur pose la question et puis ils sont là, ils se regardent d'une manière hautaine, avec le petit sourire en coin. Encore un peu, ils pensent, mais je suis le meilleur. C'est moi qui connais plus. Et quand Jacques va leur poser la question, lequel parmi vous est sage et intelligent, ils vont continuer à se regarder, puis ils vont commencer à lever la main. Mais attention, qu'est-ce que Jacques va leur dire? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Si tu n'es pas capable, dans ta vie de tous les jours, de pratiquer la connaissance que tu as acquise, si tu n'es pas capable de montrer des œuvres sincères, arrosées de douceur, d'humilité, alors baisse ton bras. Ne la montre même pas. Et je me pose la question, est-ce que les enseignants auraient pu lever le doigt? Je ne sais pas. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est nous. Est-ce que si Jacques nous posait la question, est-ce que si on nous pose la question là maintenant, lequel parmi nous est sage et intelligent, aurions-nous levé le doigt? Alors oui, Jacques nous dit qu'il le montre avec douceur. La douceur. Ça aussi, c'est un mot qu'on croit savoir connaître. On pense quelquefois que c'est synonyme de faiblesse. Non, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est pas ça. On pense que c'est réservé aux femmes. Eh non! Les hommes, vous y avez droit aussi. Soyez douceurs. On pense que c'est que la voix. Ah, mais sa voix n'est pas douce, hein? Elle n'est pas remplie de douceur. Non, ce n'est pas que ça. Oui, c'est vrai. C'est un des aspects. La douceur est avant tout notre soumission à Dieu. C'est une disposition de notre cœur. Et lorsqu'on est soumis pleinement à Dieu, lorsque notre cœur est sincère, honnête, alors ça se voit extérieurement, par nos propos remplis de douceur, par notre gentillesse, par notre humilité, par notre amabilité, notre compassion. Et c'est ce que Jacques nous dit. Montre-moi ta sagesse. Est-ce qu'elle est comme ça? Ou est-ce qu'elle est autrement? Et dans la version Semeur, pour celles et ceux qui ont la version Semeur, c'est même traduit par « c'est ça la véritable sagesse ». C'est celle-là qui est vraie. Et pourtant, à cette époque, tous ces enseignants considérés comme sages et intelligents, tout le monde allait les voir. Ils avaient une notoriété, c'était comme des célébrités. Bon, ils n'avaient peut-être pas de garde de corps. Mais dès qu'on avait une question, on allait les voir. Et ils entraînaient le peuple dans des choses qui n'étaient pas dignes de Dieu. Leur manière d'être, leur manière d'agir, leur manière de parler n'était pas en accord avec ce qu'on attend de nos messages. C'est comme l'amour. Oui, Dieu nous dit aime ton prochain. Alors oui, on dit, mais oui, moi j'aime mon prochain. Mais est-ce que tu le montres? Avec un cœur sincère, honnête. La parole de Dieu est vérité. Et nous avons un Dieu vivant. Donc la parole de Dieu se vit. Elle ne reste pas théorique. Elle est pratique. Et c'est ce que Jacques va nous montrer dans les versets suivants. Il va nous montrer ce que la sagesse que nous avons, elle vient de Dieu ou pas. Alors on va lire les versets 14 à 16. On va un petit peu décortiquer tout ça. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Et oui, Jacques s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait de la jalousie. Il y avait du favoritisme dans l'Église. Il y en a qui se la pétaient, comme on dit. Peut-être que certains aussi avaient de bonnes intentions. Mais leurs paroles, la manière dont ils transmettaient, et oui, le pouvoir de la langue, je pense que vous l'avez vu dimanche dernier avec Dominique, ça fait des dégâts. Mais tout ça, on est d'accord, ça n'existe plus. Ça, c'était avant. Dans nos églises, il n'y a plus ça. Eh non. Je vais vous apprendre quelque chose, ça existe toujours, malheureusement. C'est bien facile maintenant de critiquer, de juger, de dire, mais la parole de Dieu a dit ça, hein? Ah non, la parole de Dieu n'a pas dit ça, hein? Quelquefois, peut-être que c'est une forme de jalousie qu'on a intérieurement. On le fait souvent, quelquefois, derrière le dos de la personne. Et tu sais, tu as dit ça, hein? Tu as fait ça, hein? Ah, elle est dans le péché, là, hein? Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce qu'on va voir cette personne? Est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va prendre en compte peut-être sa souffrance? Oui, peut-être que cette personne est consciente de son péché, mais qu'elle a du mal à s'en sortir. Et au lieu de l'aider à la relever, qu'est-ce qu'on fait? On l'enfonce avec nos paroles, avec notre légalisme, avec notre religiosité. On veut se montrer meilleur. Je vais aussi vous apprendre quelque chose. Et je dis vous, mais je dis nous, ça prend quelque chose. Dieu n'a pas instauré des Oscars pour le meilleur chrétien. Ça n'existe pas. On se trompe nous-mêmes en nous faisant les défenseurs de Dieu. Alors que ce que l'on veut peut-être assouvir, c'est notre propre désir. La chair prend le dessus. On veut peut-être dominer l'autre. Quelquefois, lorsqu'on a une position d'autorité dans nos milieux professionnels, et on le voit aussi dans des églises, il n'y a pas ça ici, hein? Bon. Eh bien, notre langue fourche, notre manière de faire fourche. Quelquefois, même dans nos milieux familiaux, on va dire, ah, moi je connais plus que lui. Je vais lui apprendre. Mais je vais lui apprendre pourquoi. Est-ce que c'est par amour? Ou est-ce que c'est par désir de montrer que je sais? Dans certaines églises, il y a des compétitions. À celui qui va ramener le plus d'âme à Dieu. Eh oui, dans certaines églises, c'est ça. On fait des choses. On a des shows. On a quelque chose. Donc, si c'est aligné de, si s'animer d'un désir profond, par amour, oui. Mais si c'est une compétition, non. Dieu a-t-il besoin de nous pour amener des âmes à Dieu? Non. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais par contre, Dieu prend plaisir à voir ses enfants œuvrer pour lui. Dieu prend plaisir à voir ses enfants parler de lui. Par amour, non pas par esprit de rivalité. Un jour, lorsque j'étais, il y a quelques années, lorsque j'étais animatrice ici du groupe de jeunes, je me suis interrogée sur le fait que les jeunes fuyaient un peu l'église. On a eu une phase où les jeunes fuyaient devant l'église. Et à un moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai demandé à une jeune. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es partie de l'église X et tu es allée à l'église Y? Et cette jeune m'a dit, mais dans l'église X, il y avait que des interdictions. On me disait, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas t'habiller comme ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et au niveau des relations sexuelles, on me disait, non, non, pas de relations sexuelles avant le mariage. Alors je lui ai dit, mais c'est des choses. Et elle m'a dit, mais on ne nous a jamais expliqué pourquoi. On nous disait ça, 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 ça. Mais on ne prenait pas le temps d'échanger. On ne prenait pas le temps de nous dire, mais voilà, la lumière de la parole de Dieu, voilà ce qu'on a envie de te transmettre. On ne t'impose rien. C'est un choix que tu dois faire. On t'encourage. On n'a jamais fait cela parce qu'effectivement, peut-être qu'on était à ce moment-là légaliste. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et ce qui m'a choquée par-dessus tout, c'est lorsqu'elle m'a dit, et en plus, ceux qui disaient cela, on les voyait. On les entendait parler. On voyait comment ils se comportaient. Quel témoignage que nous avons envers nos enfants, envers nos jeunes, envers le monde. Est-ce qu'on a fait preuve de sagesse? Je vous laisse répondre à cette question. C'est vrai, mes propos sont durs, mais ça ne fait qu'illustrer ce que Jacques vient de dire. Et si vous me permettez, j'ai un autre témoignage parce que ça m'a aussi ébranlé. J'ai le temps ou pas? Ok, merci. Il y a plusieurs années, donc plus de 15 ans, c'était avant notre mariage, donc Nicolas m'invitait à l'église du Carmel, on avait annoncé notre mariage, et c'est vrai qu'à cette période, je ne m'étais pas encore donné à Dieu. Alors j'avais la religion catholique, et comme on dit, sans la pratique. Et à l'église du Carmel, on a rencontré un homme, un frère de l'église, qui avait quand même une certaine notoriété dans l'église. Et puis, il nous a dit, mais je viens vous voir, hein, je viens vous voir, je viens vous visiter. Alors, nous, on était sur Trinité, et lui, il habitait sur Carbert, Pécheur, je me souviens. Et j'étais contente. Parce que je visitais une église, et on s'intéressait à moi. Je n'étais pas perdue juste dans la foule, je n'étais pas venue, et puis non, on s'intéressait à moi, on venait me voir. Alors oui, on venait voir Nicolas, je te rassure, il venait te voir, Nicolas. Mais je pense que c'était aussi pour faire connaissance avec moi, parce qu'il connaissait déjà Nicolas. Alors ce jour-là, j'ai préparé un gâteau, je me souviens, c'était un après-midi. J'ai voulu recevoir. Donc le couple est arrivé. On les a installés à la table. Et puis, le frère a sorti de son sac, il y a eu des secondes pour. Je me souviens plus si elle comment ça va. Et puis, il a sorti sa Bible. Il l'a ouvert. Bon, je lui ai dit, j'étais un petit peu gênée. Et puis, il m'a regardé et puis il m'a dit, bon, Laurie, tu vas arrêter là avec cette histoire de vierge, je m'habille, hein. T'as genouillé devant priais ma vie, etc. Ah, tu arrêtes avec ça. Et je vous avoue que j'avais envie de partir. Merci. Merci, Annie. J'avais envie sincèrement de m'échapper. Cet homme ne me connaissait pas. Cet homme n'a pas cherché à me connaître. Alors peut-être qu'il avait de bonnes intentions. Et je ne sais même plus si j'ai dit ou j'ai pensé, mais ça, je ne fais pas ça. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. On m'a toujours obligée à le faire, je n'ai jamais fait. Parce que je n'ai jamais compris. Il n'a même pas pris la peine de me poser la question. Il a parlé après, sa femme a parlé après. Je vous avoue que je n'ai rien écouté. Rien. Je suis restée figée. Et je l'ai considérée comme une agression. Et lorsqu'ils sont partis, j'ai dit à Nicolas, si c'est ça l'Église, si c'est ça évangélique, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ça m'a refroidi. Pour un certain temps, ça m'a refroidi. Mais Dieu merci, il est grand, il est merveilleux. Et Nicolas a persévéré. Ses parents ont persévéré. J'ai croisé ici des hommes et des femmes de Dieu. Et je me suis donnée à Dieu. Mais si je m'étais arrêtée sur cet épisode, si j'étais restée figée, je serais passée à côté des plus belles choses que Dieu a offert, de la plus belle chose, la vie éternelle. Alors c'est vrai, il n'est pas trop tard. Mais on ne sait pas quand l'heure viendra. Alors il faut toujours être prêt. Donc, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, cette sagesse qui, quelquefois, parle de désirs impurs, ou les mots qui sortent, qui malheureusement agressent, font mal, cette sagesse, Jacques va la qualifier de sagesse qui ne vient pas d'en haut, de sagesse qui vient ou alors d'en bas. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, en opposition avec le côté spirituel. Et il va même utiliser un mot qui est dur. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, ce mot. Démoniaque. C'est dur, hein, d'entendre ça. Mais on est d'accord, tout ce qui n'est pas de Dieu est ennemi de Dieu. Et qui est l'ennemi de Dieu? Qui est l'ennemi de nos âmes? C'est pas Satan? Paul ira même dire dans Romains que cette sagesse est folie. Donc on voit bien deux sagesses s'opposent. La sagesse d'en bas et la sagesse qui vient du ciel, donc qui vient de Dieu. La sagesse du monde terrestre. Et la sagesse spirituelle. Et est-ce que c'est cette sagesse-là, la sagesse d'en bas, que Dieu attend de nous? Non, ce n'est pas cette sagesse-là. Ce que Dieu attend de nous, c'est la véritable sagesse. Et Jacques va nous donner ses aspects. Comment elle se voit? En effet, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Remarquez que Jacques a dit tout d'abord pure, premièrement. La pureté vient de qui? De Dieu. Et tout ce qui est impur vient de qui? De l'autre, de l'ennemi. Jacques est en train de nous dire, oui, cette sagesse, elle est sans souillure, sans tache. Elle est sincère. Elle est honnête, en opposition avec la jalousie qu'on avait précédemment. Ensuite, elle est porteuse de paix. Elle est pacifique. N'avons-nous pas un Dieu de paix? En opposition avec l'esprit querelleur, la zizanie que l'on peut semer, elle est douce, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de compassion, porteuse de fruits. Elle est sans parti pris, sans favoritisme, sans hypocrisie. Et cette sagesse, elle ne peut venir que de Dieu. Et certaines, quelquefois, dans le monde, n'ont pas compris ça. Certaines sont à la recherche de la sagesse dans les livres. Certaines vont même utiliser le yoga. Parce qu'effectivement, le yoga, à certains moments, on dit que ça ouvre les portes de la sagesse. Et quelle sagesse? Je suis tombée, en faisant mes recherches, une brochure, une belle brochure, je vous avoue, de beaux paysages en mer, en Chine, etc. Une brochure qui vous dit « Voyager pendant une semaine pour acquérir la sagesse. » Avec de très beaux paysages. Et puis en dessous, prix 5000 euros, départ Paris. Donc ça veut dire que le départ ici, pour monter, tout ça, il me semble que les prix ont augmenté. Donc peut-être 6000, 7000, je ne sais pas. Donc, il faut compter 7000 euros. Alors bien sûr, sans vos repas et sans vos extras. Donc pendant une semaine, vous payez cette somme et vous avez la sagesse. Eh bien, mes frères et sœurs, on a du travail. Parce qu'il faut aller proclamer en ce monde que la sagesse ne s'achète pas. Que la sagesse est un don de Dieu. La sagesse ne se trouve pas dans les pratiques humaines. Elle ne se trouve pas dans les livres. Elle est donnée par notre Seigneur. Proverbe 2, verset 6 nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. » Proverbe 2, verset 6. Prenons l'exemple de Salomon. L'homme le plus sage du monde, après Jésus, bien sûr. Jésus, la sagesse par excellence. Et voilà un petit peu comment Salomon était avant de demander la sagesse. Parce que c'est ce qu'il a demandé à lui. Alors, si vous voulez, on va faire un petit tour maintenant dans l'Ancien Testament. Dans 1 Rois, chapitre 3, à partir du verset 6. Si je me retrouve, vous me dites. Hein. Ça y est. 1 Rois, chapitre 3, verset 6. J'entends quelques feuilles, pas sûr que tu peux. Ça va? Salomon dit, tu as traité avec une grande bonté. Tu as traité, pardon, avec une grande bonté ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice. Et avait le cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté. Tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Mais je ne suis qu'un homme, un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. La sagesse ne s'acquiert pas forcément avec l'âge. Oui, c'est vrai. L'expérience d'une vie chrétienne nous aide à grandir. Mais Salomon était jeune. Certains théologiens ont essayé de trouver un petit peu son âge. Et lorsqu'il a commencé à siéger, quand il était roi, il avait une vingtaine d'années. Il était jeune. Et Dieu lui a donné la sagesse. Ton serviteur, je continue, se trouve au milieu d'un peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense. de la suite. Accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. Accorde à ton serviteur la sagesse. La première chose que Salomon a fait avant de demander la sagesse, il a reconnu que Dieu est son Seigneur. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Et on le retrouve dans plusieurs versets. Job 28, verset 28. On le retrouve aussi dans un psaume. La crainte de l'Éternel. Reconnaître que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. L'accepter comme notre roi. Le chanter, oui, Christ est roi. C'est dire, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Et c'est que de là que naît la sagesse. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Il aurait pu se dire, c'est bon, Dieu m'a mis roi, ça va. J'ai plus besoin de lui. Je règne. Non. Avec humilité, parce que c'est l'humilité, reconnaître que je suis incapable. De moi-même, je ne peux pas. Oui, Dieu m'a placé là à une place. Peut-être qu'il se posait la question, mais pourquoi moi? Mais Dieu savait pourquoi. Et Salomon a eu l'humilité de dire à Dieu, je reconnais que je ne suis pas capable. Alors accorde-moi ce qu'il faut, Seigneur. Accorde-moi le cœur. Accorde-moi la sagesse pour diriger ton peuple comme tu veux que ce soit. Et Salomon va le faire. Alors, c'est vrai, la fin de vie de Salomon est peu glorieuse, hein, avec ses envies de femme bonne. Non, vas-y. Mais ça va se voir dans le même chapitre. Au verset 28, il est dit, tout Israël avait appris le jugement que le roi avait prononcé. Donc c'était après que les deux femmes étaient venues voir Salomon, voilà, et ils se battaient pour le bébé. Et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer sa justice. La sagesse qui vient de Dieu se voit. Ce n'est pas un simple état d'esprit. C'est une conduite, une manière d'être, une manière d'agir. C'est ça la véritable sagesse. Et cette sagesse va apporter la paix dans les cœurs, autour de nous. Cette sagesse va porter le fruit de la justice. Car elle ne peut agir que dans la paix, par des hommes de paix. Qu'est-ce qui va être dit dans notre passage du jour, verset 18, en opposition avec le verset 16, il nous dit, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre. Là où la sagesse de Dieu règne, la paix règne. Et ça produit du fruit digne de Dieu, du fruit digne de la conduite d'un homme juste. Et c'est cette manière, cette sagesse que Dieu a pour nous. Pure, sans tache, douce, conciliante, pleine de compassion, miséricorde. Sans parti pris, sans favoritisme, sans hypocrisie. Mais on est d'accord, on n'est pas parfait. Et c'est difficile de cocher toutes ces cases. Mais Dieu, dans sa plus grande bonté, s'est fait homme. Dieu, par amour pour nous, est venu sur cette terre, s'est humilié. Au lieu d'être celui qu'on va servir, il s'est mis serviteur pour nous montrer comment agir, pour nous montrer comment faire, pour nous montrer, lui, la sagesse incarnée. ce que c'est, comment faire, comment être. Et il est allé jusqu'à la croix pour nous, pour l'humanité. Lui qui était sans péché s'est fait pécher. Pour que dans des moments justement où nos pensées ne sont pas pures, dans les moments où l'on tombe, dans les moments où on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui attristent notre Seigneur, on a cette possibilité d'aller à ses pieds. On a cette possibilité de lui dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Envers ma soeur, envers mon frère, envers un membre de ma famille, dans mon travail. Je reconnais ça, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de l'effacer. Et Dieu est fidèle et juste pour le faire. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que Dieu nous dit de nous. Dans Jacques 1, verset 5, on l'a vu tous ensemble dans les petits groupes. Jacques nous dit, s'il vous manque de la sagesse, sans douter, avec la foi que vous avez, on a quelquefois l'impression qu'il faut avoir une grande foi. Ce n'est pas la grosseur. Mais c'est notre confiance en Dieu. Sans douter, demande à Dieu, il te la donnera. Seigneur, je suis incapable. Mais je te demande la sagesse. Je ne peux pas faire ça, Seigneur. Mais je te demande la sagesse. J'ai un problème avec mon frère, ma soeur. Si je vais là maintenant, Seigneur, ce sont des choses qui ne te plaisent pas, qui vont sortir. Je te demande la sagesse, Seigneur. On m'a appelé dans un ministère, dans mon église. Je suis incapable, Seigneur. Je ne peux pas me retrouver là. Mais Seigneur, tu parles d'une manière tantôt d'une autre. Je te demande la sagesse, Seigneur, pour être là où tu veux que je sois et pour pratiquer ta justice. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y avait un sage qui passait de longues années à méditer, tout en haut d'une montagne, dans une petite tente, loin de l'agitation du monde, loin de l'excitation des autres. Et puis un jour, il y a un villageois qui est venu le voir, tout affolé, qui lui a dit, au fait, sage, s'il te plaît, aide-nous. Ça fait plusieurs années qu'il ne pleut presque pas. On va mourir de faim. On a des semences, on a des graines. Mais si on continue à les semer, il va pourrir, mais c'est le pas. Alors, le sage l'a écouté attentivement. Et avant de prendre la parole, le sage a réfléchi. Le sage lui a dit, écoute, vos semences, prenez-les, mettez tout en commun. Allez les planter dans les terres fertiles. Vous les connaissez, les terres fertiles. Allez les planter dans les terres fertiles. Puisez de l'eau au puits sans gaspiller. Et lorsque vous aurez récolté, partagez de manière équitable selon la taille de la famille. Ces paroles ont plu aux villageois. Et avant de partir, avant de redescendre la montagne, le villageois a dit, ah ouais, je reconnais que tu es sage. Et vous savez ce que le sage a dit? Le sage, c'est plutôt celui qui sait où se cache la sagesse, d'où elle vient. Et lorsque le villageois il est parti, ben le sage s'est tourné vers le ciel et puis il a dit, faites qu'il pleuve. Alors pourquoi je vous raconte ceci? Première chose, parce que la sagesse vient de Dieu. Personne ne peut avoir la véritable sagesse si on ne reconnaît pas qu'elle vient de Dieu. Et si on ne craint pas, si on n'accepte pas Dieu comme notre Seigneur et notre Sauveur. La deuxième chose, Ce sage méditait depuis de longues années. Oui, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais regardez bien le mot « commencement ». Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin. Et ce chemin, on ne peut la faire qu'en méditant la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, Dieu nous dit, et donc Dieu le dit à Josué, mais il nous le dit à nous tous, « Médite ta parole jour et nuit. » Alors vous savez, pendant un certain temps, je pensais que c'était, oui, méditer, comme ça, je suis en connexion avec Dieu. Mais ce n'est pas ça seulement. Oui, on est en connexion avec Dieu. Mais c'est dans sa parole que nous avons les réponses. C'est en lisant le passage du jour qu'on sait ce qu'est la véritable sagesse. Prenons le temps de la méditer. Ne nous disons pas, et on se trompe, « Ah, mais c'est les 5 premières années de après le baptême. » Non, tout au long de notre vie. Regardez bien ce que le sage a fait. Il a écouté attentivement. Et puis après, il a réfléchi avant de parler. Ne soyons pas prompts à prendre la parole. Prenons le temps d'écouter Dieu, d'écouter les autres. Et demandons au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise dans ce domaine précis? Et le sage s'est éloigné. Le sage est sorti du monde. Nous aussi sortons du monde. Alors je ne vous dis pas, allez dans un endroit, reculez, montez jusqu'au sommet de la montagne, allez, restez-y, c'est pas ça, hein? Mais ayons un cœur pur. Prenons le temps de aussi sortir de ce monde mouvant. Certains font des retraites spirituelles. Lorsque je réfléchissais à tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, finalement, je me rends compte combien de temps que je n'ai pas jeûné. Sachez combien de temps. Combien de temps que chacun de vous, vous n'avez pas jeûné. Pris un temps à part avec Dieu. Couper toute chose. La télé, les soucis du quotidien, etc. Et avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Ces moments où Dieu nous parle. Combien de temps? Moi, ça fait longtemps. Et ça m'interpelle. Et puis le sage a regardé le ciel et a dit oui. Puisse la pluie tomber. Parce que c'est dans la prière que nous avons la réponse. Alors, frères et sœurs, pendant toutes ces semaines, Dieu nous bouscule, Dieu nous interpelle par le livre de Jacques. La langue, la sagesse, la prière, les œuvres et bien d'autres choses. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que l'on va grandir en maturité? Est-ce que notre Église pourra croître numériquement? Est-ce que nous sommes prêts à aller évangéliser, non pas avec la sagesse d'en bas, mais la sagesse d'en haut? Et c'est ma prière pour chacun de nous. Que nous puissions, à chaque instant de notre vie, quelle que soit nos situations professionnelles, personnelles, spirituelles, avec humilité, dire à Dieu, Seigneur, dans cette situation, il me manque de la sagesse, Seigneur. Seigneur, donne-la-moi, s'il te plaît. Remplis-moi de ta sagesse. Et c'est ma prière pour chacun. Soyez bénis, frères et sœurs.